Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Pellé. Bonjour Géraldine.
Bonjour Irène.
Présent également autour de cette table dans notre studio d'Esprit Occitanie, notre président bien-aimé Jacques Lavergne, qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Bonjour Jacques.
Bonjour à toutes et à tous.
Géraldine, je suis contente de vous recevoir et ce, à plusieurs titres. D'abord pour faire découvrir à nos auditeurs la jeune femme que vous êtes. Nous parlerons bien sûr de votre livre avec et sur Michel Saran, mais également, vous êtes la première femme invitée de cette émission.
Merci.
Et je suis ravie que ce soit vous. Géraldine, vous êtes née le 10 février 1982 à Pau. Vous évoquez votre enfance comme, je cite, plurielle en termes d'expérience, de transmission, de paysage, d'horizon, de découverte, avec des parents qui vous ont donné la possibilité à votre sœur et à vous de devenir ce que vous êtes. Vous êtes une enfance curieuse des autres, du monde, de l'écriture, de la langue, de la musique, du dessin. Vous avez une thèse de géographie. Aujourd'hui, vous êtes conseillère en communication et relations presse. Mais avant d'évoquer tout cela avec vous, Géraldine, revenons sur cette enfance curieuse et heureuse.
Oui, donc curieuse du monde, curieuse des autres. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise depuis très, très, très petite. Je pense que depuis que j'ai franchi la porte de l'école maternelle, où je me souviens, en général, les enfants avaient peur, ils restaient accrochés à leur maman. Et moi, j'ai eu ça comme un monde de possibles fabuleux, avec des enfants partout et plein de fêtes organisées, plein de jeux organisés. Et je pense que ça a été... Depuis ce moment-là, je pense que c'est une vraie ouverture vers les autres et quelque chose qui me passionne, la rencontre des gens, le fait de les rassembler, de faire du lien voilà, entre les gens.
Vous êtes née à Pau, vous avez grandi à Pau ?
Non, j'ai grandi à Argelès, Gazost, qui est près de Pau, à une demi-heure de Pau. Et j'ai grandi.
C'est
justement
un village ?
Oui, c'est une petite ville. Moi, je dirais que c'est une petite
c'est
ville.
C'est une petite ville, voilà. Donc on ne peut pas parler d'un milieu rural. C'était plus citadin.
Oui, c'est une petite ville, mais c'est une petite ville. Moi, j'aime pas trop le terme de campagne, le milieu rural. C'est vraiment un milieu de montagne. Et la montagne était très, très présente dans toute mon enfance. Dès que j'avais un petit moment, le mercredi, le week-end, enfin en dehors de l'école, je passais beaucoup de temps avec les amis, avec mes parents en montagne, dans des longues marches, faire l'expérience de tous ces paysages à la fois en solitaire
l'éveil avec tout ce qu'une ville peut apporter et à côté de ça le côté j'ai envie de dire sain et sportif, des moments de libre.
Oui, ces moments de libre étaient présents vraiment dans mon quotidien de vie. C'est-à-dire que depuis le matin où j'allais toute seule à l'école avec la musique que j'aimais, en marchant, en regardant les paysages. Je préférais justement passer une demi-heure à marcher, avoir ce moment-là pour moi. Après avoir passé un petit moment à écrire aussi, plutôt que de prendre le bus avec tout le monde. Et d'ailleurs, je n'ai pas changé.
Vous avez quelle différence d'âge avec votre sœur ?
J'ai 3 ans d'écart, mais...
Vous êtes l'aînée ?
Oui, c'est ça, oui. Mais on ne l'a jamais vraiment ressenti. Enfin, je trouve que c'est très proche à 3 ans. 3 ans d'écart, ça permet de créer un lien qui est quand même très...
Donc vous avez été très proche et vous avez vécu toute cette enfance vraiment ensemble ?
Ah oui, vraiment tout ensemble. On est vraiment... on est complètement différente avec ma sœur. À tout point de vue, physiquement, intellectuellement, à tout niveau. Mais justement, c'était une différence qui était très instructive et très, très créatrice. On n'aimait pas les mêmes choses, on n'aimait pas le même sport, on lisait pas les mêmes livres, on n'écoutait pas la même musique. Et pourtant, on vivait sous le même toit.
Alors justement, vous dites que dès la maternelle, vous avez eu cette envie d'apprendre, de découverte de tout ce qui vous entourait. Je ne sais pas si on le sent bien sur l'introduction, mais de la découverte non seulement des autres, mais également des éléments de la terre et de toutes ces choses qui vous entourent. Quand vous étiez enfant, vous étiez donc beaucoup sur l'extérieur, mais vous consacriez aussi beaucoup de temps aux camarades.
Ah oui, c'est vraiment un équilibre. Je vois vraiment ça comme une... Oui, c'est un équilibre et une circulation entre les deux. C'est-à-dire que les moments de... je pense que les moments de solitude et de repli un petit peu sur soi, sur sa conscience, ça permet d'être d'autant plus disponible aussi pour les autres. Et inversement, les moments passés ensemble nourrissent aussi ces moments de réflexivité. Et ça, c'est quelque chose... Bon, là, je m'exprime avec des mots d'adulte, mais c'est quelque chose que je pratiquais depuis l'enfance, où j'avais de très longues heures toute seule, en solitaire, et en même temps... très entourée à la fois par la famille et en même temps par mes amis à l'école que j'adorais retrouver. Et d'ailleurs, quand mes parents à la rentrée des classes me demandaient comment ça s'était passé, ce que ma mère me disait récemment, elle me disait « Ah, mais tu me disais, ça y est, j'ai retrouvé Benjamin, j'ai retrouvé Anne, j'ai retrouvé un tel. » Et pour moi, c'est indissociable. Il n'y a pas de séparation depuis que je suis toute petite entre l'intérieur et l'extérieur, et entre le commun et l'individuel, entre la solitude et le partage. Je trouve que tout cela est lié, et ces deux pôles, hein, finalement, se nourrissent l'un l'autre. Voilà.
Vous avez appris un instrument ?
Oui, j'ai fait de la musique depuis... je crois que j'ai commencé à la fin de l'école maternelle. J'ai commencé par le chant, par le solfège, j'ai joué un peu de flûte, mais j'aimais pas trop ça, parce qu'on l'entendait pas trop. Et ensuite, j'ai joué de la trompette pendant tout mon collège et mon lycée. Je me souviens que je m'exerçais entre midi et deux quand je rentrais pour déjeuner. Je déjeunais vite et surtout je passais beaucoup de temps à jouer, à écouter.
Avoir été mise dès la fin de la maternelle dans une école de musique, vous aviez vous-même déjà des parents musiciens ?
Non, pas du tout, mais on écoutait beaucoup de musique. Non, j'avais pas de parents musiciens, non. Non.
Vous étiez une enfant docile ?
Affectueuse, on va dire, mais il paraît que j'étais pas trop docile. Enfin, si j'en crois ce qu'on m'a dit, moi j'ai l'impression que oui, mais je pense que c'était difficile de m'engager dans un sens que j'avais pas choisi. Voilà.
Donc vous faites toutes vos scolarités qui se passent bien ?
Oui, ah oui, très bien.
Au niveau scolaire, aucun problème ?
Très bien, parce que j'ai vite compris que pour pas être embêtée, il fallait avoir de bonnes notes, à la fois par les parents et par les professeurs. Donc je faisais ce que j'avais à faire et après ça me permettait de rêver, de faire ce que je voulais à côté.
Alors justement, vous parlez de rêve. Qu'est-ce que vous rêviez pour votre futur quand vous aviez l'âge de 14, 15 ans, quand vous étiez adolescente, vous vous projetiez, vous vous imaginiez quoi pour vous ?
Alors ça c'est une question très difficile parce que justement je projetais plusieurs scénarios possibles. Et je voulais pas justement, je m'imaginais pas dans une seule fonction ou dans un seul chemin de vie, en fait. J'arrivais pas à me projeter sur un seul métier, sur un seul lieu, dans un seul scénario. J'arrivais juste à me fixer un horizon de vie, en fait. À me dire, dans quelques années, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je veux vivre. Et c'était plus des exigences de mode de vie, et d'éthique plutôt qu'un enfermement dans un métier. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Absolument. C'est pas commun parce que quand on est adolescent, on rêve tous.
Si je m'imaginais indépendante, ça c'est sûr. Ça me faisait rêver d'avoir une entreprise, de construire et d'avoir la responsabilité des autres. Ça c'est quelque chose. Je me projetais dans une posture. Après, à savoir dans quel champ d'activité ce serait, ça, je ne savais pas du tout.
La responsabilité des autres, vous évoquez ce mot. C'est important pour vous d'être responsable des autres ?
Oui, des autres et de mes actions, des projets que je construis. Et responsable des autres, mais responsable aussi des conséquences, aussi des projets et des actions que j'engage. Parce que voilà. Donc,
Donc vous restez dans cette petite ville jusqu'à la fin de votre terminale, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Et vous arrivez à Toulouse après pour vos études ?
Voilà, j'arrive à Toulouse.
Toute seule ?
Oui, toute seule.
Donc c'est le début d'une une indépendance autre encore. Oui. Comment ça se passe? Vous prenez un appartement?
Alors, ambivalent. C'est, l'arrivée à Toulouse est ambivalente. À la fois, donc, je suis venue à Toulouse parce qu'il y avait une très bonne classe prépa qui le lycée Ferma, où j'avais été prise donc, en prépa HEC. Et j'ai adoré le fait d'avoir une offre culturelle un petit peu plus étoffée, justement, dans une ville comme Toulouse, plutôt que dans celle dans laquelle j'avais vécu.
C'est une ville qui vous a séduite dès le départ ?
Non.
Non ?
Pas a priori, en fait. Mais après, je ne suis pas quelqu'un je suis pas une personne qui a tendance au coup de foudre et au coup de cœur. Les choses s'installent doucement. Voilà. Donc j'ai appris à connaître cette ville de Toulouse, mais elle ne me plaisait pas plus que Lyon ou Bordeaux ou Paris. Voilà.
Alors pas plus que Lyon, Bordeaux ou Paris. Vous avez eu l'occasion de découvrir toutes ces villes.
Oui, oui, oui.
Oui. Mm-hmm. Vous avez beaucoup voyagé avec vos parents dans ces années justement de jeunesse.
Oui, un petit peu. Mais
en France et à l'étranger.
Oui, en France, à l'étranger.
C'est important pour vous les voyages?
Oui, mais en fait, je crois que je suis pas certaine d'aimer les voyages. J'aime découvrir la culture et le mode de vie, des cultures et des modes de vie qui sont différents des miens, et je suis pas certaine que le déplacement physique sur de courtes périodes soit le plus propice à cela. J'aime bien cette notion de voyage immobile, par la littérature, par l'histoire, par la géographie.
Le voyage par la lecture est important.
Voilà, c'est ça.
Alors revenons justement à ces premières années toulousaines. J'aimerais qu'on évoque un petit peu ces années d'étudiante. Vous dites avoir fait une prépa HEC à Ferma. On a dit en introduction que vous avez eu une thèse de géographie. Alors quel a été justement ce parcours entre ces années de prépa HEC et cette thèse de géographie?
Il a été pluriel, un petit peu comme tout mon itinéraire jusque-là. La première chose, quand je vous parlais d'ambivalence sur mes premières années d'études, j'ai énormément apprécié, en étant au lycée Ferma en prépa, l'exigence, le fait de pousser vraiment au bout les savoir-faire, les connaissances, enfin, l'exigence des professeurs et le fait d'apprendre. Enfin, moi, j'ai apprécié la charge de travail, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui effrayait beaucoup d'entre nous, mais j'ai aimé ce fait d'être poussée jusqu'au bout. Et par contre, j'ai très mal vécu l'enfermement spatial, en fait. Le fait d'évoluer juste entre la salle de classe, ma chambre, mon bureau et la bibliothèque. Finalement, le quotidien se différenciait entre ces trois petits espaces, et c'est là que j'ai éprouvé ce manque, que je me suis rendu compte de l'importance du milieu et des milieux naturels dans mon quotidien de vie, en fait. Et ça, ça a été très, très, très difficile.
Donc vous avez besoin d'espace pour votre quotidien.
Oui. Ah oui. Mais de mouvement et d'espace, oui. Et l'immobilité du corps aussi.
D'accord.
En prépa, enfin, finalement, le seul effort physique que je fournissais, c'était pour monter l'escalier, pour passer d'une salle de classe à une autre. Et c'était physiquement difficile, oui.
Alors, vous parlez de mobilité physique. Êtes-vous sportive ?
Oui, un petit peu. Enfin, j'ai une activité physique régulière, on va dire.
Oui, et vous faisiez déjà du sport en étant dans ces jeunes années de jeune femme, puisque là, on est sur vos années de prépa, vous deviez avoir 18-20 ans.
Voilà. Depuis, oui, j'ai toujours fait une activité physique quotidienne depuis mon enfance. J'avais fait du tennis, de la natation, beaucoup de course à pied, athlétisme, et après ski, randonnée, voilà. Mais c'est vrai que j'avais une activité physique quotidienne.
Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année ou de ces deux années de prépa? Vous avez fait, j'imagine, une année donc de prépa. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année de prépa à Ferma pour que vous bifurquiez comme ça sur des études de géographie?
Oui, d'histoire-géographie. En fait, ça s'est passé, le basculement s'est passé vraiment pendant l'année de prépa et même au tout début de l'année de prépa, où en fait, on avait un cours qui s'appelait un cours de culture générale et civilisation, je ne me souviens plus de l'intitulé exact, où là j'ai découvert la pensée d'Hannah Arendt que je ne connaissais pas à travers la crise de la culture, et ça a été vraiment une rencontre intellectuelle et une lecture qui m'a fait me dire que le fait d'aller peut-être un peu trop vite dans mon choix de métier et d'enchaîner directement sur une école de commerce en sortant d'une classe prépa était peut-être un peu trop rapide et prématuré. Et ça m'a fait aussi pressentir le besoin d'aller chercher plus profondément dans l'histoire, dans la géographie, dans la culture pour monter des projets que j'arriverai à monter de toute façon. Parce que qu'est-ce qu'on apprend en école de commerce ? Ce sont des outils juridiques, des outils marketing, des outils de communication. Et on est toujours à temps d'apprendre à s'en servir. Et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué. Ça a été vraiment une très grande rencontre intellectuelle qui a fait que j'ai choisi en début d'année que je terminerais pas, enfin que je préparais pas les concours d'école de commerce. Et là, je suis allée en histoire géo au Mirail à Toulouse où j'ai fait un double cursus en histoire géo et lettres modernes. Mais je n'allais pas vraiment en cours en lettres. J'ai validé mes diplômes, je suis allée aux examens, mais j'allais pas vraiment en cours. Et ensuite, je me suis spécialisée, enfin j'ai vraiment découvert la géographie en master 2 d'histoire médiévale, où j'ai travaillé sur les géographes arabes, sur des manuscrits qui allaient du 9e au 15e siècle, sur Al-Andalus, c'est la notion de frontières et de limites et d'horizons. Et là j'ai découvert la langue arabe. Ça a été vraiment une expérience qui m'a fait prendre conscience du plaisir que j'avais à écrire dans ma propre langue, en fait, en découvrant un alphabet qui était complètement différent du mien. C'était un dépaysement total, un changement de cadre de référence radical. Et c'est dans ce changement radical que j'ai découvert la musicalité et la puissance d'analyse et de rythme et de mélodie de ma propre langue. Et là aussi, ça a été un deuxième basculement important, en fait, le plaisir que j'ai eu à découvrir cette civilisation et en même temps l'écriture d'un mémoire quand même poussé sur une année entière. Et voilà.
C'est beaucoup de choses, merci. Oui. Merci Géraldine. Je vous propose tout de suite une première pause musicale. Vous avez choisi Je m'appelle Géraldine.
C'est une coïncidence. J'aime cette chanson et il se trouve qu'elle s'appelle Je m'appelle Géraldine.
Donc c'est de Jean-Claude Vanier par l'Orchestre National de Jazz Daniel Ivnek dans l'album The Party. Thank you. Géraldine, un mot en particulier sur ce choix ?
C'est le choix qui s'est imposé quand vous m'avez écrit pour l'émission en me demandant de choisir deux chansons. C'est la chanson que j'ai mise en me réveillant samedi matin, tout simplement. Et en fait, les musiques qu'on choisit sont aussi le reflet d'un état intérieur à un moment donné.
À un moment donné, voilà, c'est ça.
Et je trouve que celle-là, en fait, c'est comme quand une femme elle trouve la robe qui lui va. Enfin, c'était juste la chanson qui m'allait à ce moment-là. Et j'aime son rythme, sa légèreté, son détachement. Il y a quelque chose à la fois très sensuel et très détaché que j'aime beaucoup. Voilà, enfin, qui me correspond en ce moment, on va dire.
Alors, Géraldine, j'aimerais que sur cette deuxième partie d'émission, bien sûr, nous évoquions ce magnifique livre et aussi que vous nous racontiez justement cette rencontre avec Michel Saran. Mais sur cette deuxième partie d'émission, je sais que Jacques a beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Donc, je lui laisse la parole. Je vais essayer d'être très, très sage.
Oui, merci, Irène. Ça va être très compliqué. Merci d'abord de m'accueillir dans votre émission. La sagesse sera relative. Vous avez observé que je n'ai rien dit pendant la tranche.
Alors, j'avoue
la première
que j'ai
tranche.
Été quand même...
Donc, voilà. J'attends de vous un silence respectueux pour la deuxième tranche.
Ça veut dire que je n'ai pas le droit à un seul mot.
Alors, Géraldine Pellet, bonjour. Vous avez écrit un livre qui est un beau livre, un gros livre, un livre lourd, puisqu'il pèse 2,4 kg, ce qui est quand même pas rien. Alors moi, j'ai lu ce livre.
Ça rentre dans le sac à dos.
Oui, ça rentre dans le sac à dos, mais une fois qu'il y est, on n'y met rien d'autre. Alors, je l'ai parcouru, je l'ai relu. C'est un livre... pour moi, c'est un peu un ovni, parce que je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce livre, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir et je le reprendrai parce que je le reparcourrai. C'est un livre, déjà, que vous avez écrit à six mains, si je puis dire, parce que c'est une image, puisqu'il y a... Le cuisinier Michel Saran, hein, qui est un cuisinier prestigieux, au moins pour Toulouse, on le sait, qui est une des figures à Toulouse, des figures, comme on dirait si on était dans une arène. Il y a l'écriture et puis il y a la photographe aussi. Donc vous êtes mis à trois pour faire ce livre. Alors qu'est-ce que vous avez exactement voulu faire ? Est-ce que c'est un livre de cuisine ? Auquel cas, ce serait le plus sophistiqué des livres de cuisine parce qu'il comporte beaucoup de recettes et tout le texte et les photos tournent autour de certaines recettes que vous avez sélectionnées. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement ?
Alors, ça n'est pas un livre de cuisine. C'est un livre dans lequel on trouve des recettes de cuisine, en l'occurrence les recettes de cuisine de Michel Saran. Mais c'est un livre, en fait, qui s'interroge sur la transmission. Sur le lien entre la matière et l'environnement, sur ce qui dure, sur ce qui fuit. Et donc c'est un livre qui permet de, on va dire, de transmettre de manière sensible par la rencontre de trois langages, celui du cuisinier, celui de l'auteur et celui de la photographe. Une réflexion sur ce qui dure. Et sur ce qu'est la cuisine aujourd'hui. En fait, c'est un petit peu donc toute une réflexion de thèse. J'ai fait ma thèse donc de géographie sur le goût et le goût comme un lien, comme un attachement au monde et aux choses. Et dans cette thèse, j'ai réfléchi sur la notion d'objet paysager, à savoir que l'objet que l'on construit en fait est le fruit d'une rencontre entre un homme et son environnement, qu'il sélectionne des matières dans l'environnement pour créer un objet, et en même temps, cet objet, une fois posé sur la table, là en l'occurrence l'objet culinaire, modifie aussi le regard de l'autre et crée un lien avec l'autre.
Alors cet objet, c'est le plat. Alors, je vais vous donner la recette à tout le monde de la soupe de foie gras à l'huître belon. Donc,
c'est la
d'après...
plus courte.
Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'on est quand même à la radio, donc il faut faire des choix. Alors la veille, vous mettez le foie dévenu à mariner avec le sel, le poivre, l'armagnac et le porto. Je ne sais pas si je vais aller au bout de la recette sans saliver. Le lendemain, vous cuisez le foie au bain-marie à 160 degrés pendant 12 minutes. Vous égouttez le foie, vous le mettez dans le blender avec le bouillon de poule, et le mixeur, je ne sais pas ce que c'est que le blender. Vous montez la soupe avec le gras du foie égoutté et chinoisé, c'est pas non plus ce que veut dire chinoisé, donc je ne pourrais pas faire la recette. Servir tiède, déposer une huître fraîchement ouverte au centre et terminer avec une pluche de cerfeuil. Donc moi, je veux bien que ce ne soit pas un livre de cuisine, mais quand même des recettes de cuisine.
Il y a 16 recettes de cuisine.
Et donc le livre est écrit et les photos sont faites autour de la recette, puisque vous avez sélectionné des recettes et autour de ça, vous avez écrit votre texte. On en lira un peu tout à l'heure, on parlera de la truffe. En tant que lotois, je ne peux pas passer à côté de la truffe. Il y a aussi des dessins. J'imagine que les dessins sont de Michel Sarran,
oui,
c'est ça ?
Oui, les dessins sont les croquis de Michel Sarran.
Les croquis de travail.
Voilà, les croquis de travail.
Donc, c'est quand même un livre où on parle... Il y a plusieurs, peut-être, niveaux de lecture.
Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un livre, vous pouvez le lire comme un livre de recettes de cuisine. Vous pouvez le lire comme un livre qui vous renseigne sur le parcours et l'itinéraire de création de Michel Sarran. Vous pouvez le lire comme un livre qui vous transporte dans les paysages qui entourent tous les ingrédients de chaque recette. Vous pouvez le lire comme un livre de réflexion et de théorie sur la création culinaire. Vous pouvez le lire comme un livre sur la transmission. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en effet, oui.
Alors, comment est venue l'idée de ce livre ? Qui c'est qui l'a eu et quand ? Et pourquoi Michel Sarran ? Je vous pose toutes les questions, comme ça vous avez le choix, vous répondez à celles que vous voulez, de préférence à toutes. D'ailleurs, je suis un peu directif, pardon.
Alors, la première, pourquoi Michel Sarran ? Parce que ça s'est fait de façon assez imprévue et spontanée. J'ai rencontré Michel Sarran quand j'étais en tout début de thèse, chez le torréfacteur Baquier. Et ce qui est très rigolo, c'est que le matin même, je me posais la question de commencer mes recherches par un stage en cuisine. Et j'avais décidé, dans la journée, de présenter mon CV, d'aller frapper à la porte du restaurant de Michel Sarran. Et je l'ai rencontré quelques minutes plus tard chez le torréfacteur Baquier et lui ai présenté mon projet.
Quel est le rapport entre une thèse de géographie et le goût ? Moi, de la géographie, on voit les paysages, on voit les frontières, on voit les pays, on voit... Quel est le rapport avec le goût ? Alors, je sais bien que la géographie mène à tout, mais là, comment vous y êtes arrivé ?
Oui, alors là, la géographie, donc, comme dans toute discipline, il y a plusieurs courants de pensée et méthodologies. Moi, je m'inscris dans ce qui s'appelle la géographie culturelle. Et dans ma réflexion, en fait, j'ai lié la question de l'éthique environnementale, de la culture et du paysage. Et j'ai lié ça grâce à la cuisine, en fait, parce que dans la création culinaire se mêlent à la fois des représentations, des problématiques environnementales, des problématiques de transmission, et tout ça s'enveloppe dans le terme de goût, en fait, dans le sens d'une expérience sensible du monde et d'un paysage, je parle de paysage gustatif. Et dans le paysage gustatif, ça enveloppe justement un tas de paramètres qui permettent de considérer en même temps plusieurs déterminants sociologiques, environnementaux.
Donc c'est un livre de cuisine intellectuel.
Non, oui,
ça ne vous va pas trop ce...
Oui,
Il y a dans votre texte, on va venir à ce que vous écrivez, c'est un peu le roman du goût aussi, non ? Ou la poésie du goût, il y a un peu des deux, parce que c'est quand même très littéraire. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai fait des études littéraires. Même si vous avez pété en cours, apparemment, vous savez lire, et vous lisez bien, vous avez parlé d'Anna Arendt, oui. Anna Arendt était très loin du goût quand même, mais bon, c'est pas elle qui vous y a amené. Vous écrivez très bien, mais vous avez une approche très particulière.
Oui, et quand vous me posiez la question de savoir comment était né ce livre, une fois passé, enfin, après avoir rencontré Michel Sarran, donc j'ai passé beaucoup de temps dans ses cuisines.
C'était
avec
un peu
lui.
Le hasard, la rencontre avec Michel Sarran.
Oui, voilà, je ne crois pas trop au hasard.
Non, vous pensez qu'il y a des prédéterminés par là quelque part.
Non, mais c'est plus joli de croire ça. Enfin, j'y avais pensé le matin et voilà, la rencontre s'est produite. C'est une jolie histoire.
Le grand architecte de l'univers avait prévu que quelque part vous vous croiseriez.
Exactement. Et durant de longs mois et quelques années, on a beaucoup discuté ensemble sur l'esthétique, sur la cuisine. Mon goût s'est formé entre ces murs dans sa cuisine.
Pourquoi Michel Sarran a accepté ? Parce que finalement,
parce qu'il est curieux de tout.
il est en cuisine, c'est du boulot.
Il est vraiment.
Donc vous l'avez intéressé, donc il a vu en vous un potentiel et une ouverture peut-être sur d'autres mondes.
Oui, il y avait vraiment un échange énorme et dans nos discussions, je lui parlais beaucoup de toutes mes lectures, de ce que je rencontrais sur le terrain, dans mes enquêtes.
Vous avez beaucoup parlé avec lui parce que.
Oui.
Qu'est-ce qui était important pour aller vous. Ça veut dire que dans vos textes, vous avez un peu traduit la pensée de Michel Sarrant. Parce que quand on regarde, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue dans ce livre, puisque les parties blanches, ce sont les phrases de Michel Sarrant.
Oui.
Alors on voit tout à fait, il y a des phrases, lui, très simples, très directes, très pratiques. Et à côté, vous avez des développements beaucoup plus, allez, je vais reprendre l'adjectif tout à l'heure, beaucoup plus sophistiqués.
Oui, alors il y a plusieurs niveaux de travail sur le rendu de ce livre. En fait, donc l'origine, la première, ce qui a motivé l'écriture du premier chapitre, c'était un atelier d'écriture et de réflexion sur l'écriture scientifique qu'on avait monté avec un groupe d'étudiants à Lyon quand on était en thèse, lors des Assises internationales du roman organisées à Lyon. Et dans le cadre de cette réflexion, on écrivait chacun un petit texte. Et pour réfléchir sur cette... Et je m'interrogeais beaucoup sur cette limite de l'écriture scientifique, où justement, ce qui me posait problème en thèse, c'est de me dire finalement que je travaillais sur quelque chose de sensible, sur le goût, sur une expérience émotionnelle, et que j'en rendais compte par quelque chose de très conceptuel, très sec, et finalement à côté... De l'objet même de ma recherche.
Ça aurait pu être fait par une sociologue ou une anthropologue, ce type de livre, ce travail sur le goût.
Oui, aussi. Oh, oui, je pense. Oui. Alors, je continue le fil de l'histoire.
Oui, je vous ai interrompu parce que quand même, il faut que je prenne la parole un peu de temps en temps.
Et donc, poursuivant cette réflexion, donc, dans le cadre de cette participation à un atelier, j'ai pris le fil directeur un matin de la soupe de foie gras, qui était un exemple que j'avais noté dans ma thèse. Et j'ai écrit ce qui est aujourd'hui le dernier chapitre du livre, qui s'appelle « Où suis-je ?». Et ça a été un premier point de départ, et j'ai envoyé aussi le texte à Michel Sarrant.
Dont les premiers ont été les derniers, comme dans
voilà,
une autre histoire.
Ça. Hein, oui. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, j'avais hésité à intégrer ce texte au livre, parce que je trouvais que ma réflexion et mon écriture avaient évolué depuis ce premier texte, en fait.
Vous avez parlé de foie gras. Quand on dit foie gras, on pense de suite à ce qui l'accompagne souvent, c'est-à-dire la truffe.
Oui.
Alors, moi, c'est mon côté lotois. Hein, vous savez, quand on est dans le Lot, on est toujours
un peu...
Voilà, et moi, je l'ai bien aimé le lire aussi. Donc, je vais en lire quelques lignes. Ça s'intitule, ce chapitre, « Un coup de dé ». Donc, je vous lis et je vous cite. « Elle est bien cachée dans l'obscurité. Elle est cernée de toutes parts, là, longée en profondeur. Au milieu des particules d'une terre calcaire. Elle n'est pas captive, non. Aucune racine ne la raccroche à ce qui l'entoure. Elle s'impose au milieu, en suspension dans la matière, entourée, mais pas reliée. Est-elle un organisme ? Est-elle seulement vivante ? Les premières circulations ont eu lieu au printemps. Pendant quelques jours seulement, en profondeur, le mycélium fait du troc avec les racines du chêne. Il leur donne quelques minéraux et un peu d'eau contre du sucre. Et leur symbiose est en marche, c'est un nouvel organe qui prend corps, la mycorhize. Elle fructifie dans la terre, mais jamais ne se mélange à elle. Très vite se détache du mycélium, une quinzaine de jours tout au plus. Impatiente de se débrouiller seule, de grandir, elle prend forme, toute cabossée, rustique, irrégulière. Pendant 6 à 9 mois, les écailles ont capté quelques nutriments à l'aide de petites houppes situées à leurs extrémités. À présent, elles gagnent une chair traversée de veines blanches. Les premières particules agglomérées ont traversé l'été, sa chaleur, sa sécheresse parfois, et puis l'automne et la pluie qui ravine, le début de l'hiver et son froid qui paralyse. Décembre, janvier, février, mars, on n'a plus qu'à la prendre telle qu'elle. Cette matière, elle est tellement pleine, tellement puissante toute seule. L'extraire, la déloger de l'obscurité, accompagner sa mise en lumière, entre le végétal et l'animal, des notes d'humus, de racines, de tabac même, de cuir et de musc, ces arômes sont capables de traverser la coquille d'un œuf. Et là-dessus, il y a la phrase, la réflexion de Michel Sarran, « Faut faire avec, faut faire attention, sinon la truffe, elle t'amène où elle veut. » Fin de citation de Michel Sarran, qui est quand même beaucoup plus sobre que vous.
Hein. On a bien rigolé.
Ouais. Oui, vous êtes dans la poésie. on sent quand même l'artisan très, très pratique. Oui. Ce texte qui m'a beaucoup plu sur la truffe, comment il vous est venu? Parce que c'est vrai, on a l'impression un peu de vivre avec la truffe. Enfin, on a l'impression Exactement. Qu'on accompagne la truffe dans ouais. la terre, dans ses échanges ouais. avec le chêne. Et puis ensuite, elle grandit. Elle devient mature et nous la gobons.
Voilà, c'est ça. Ben, en fait, ça, c'est...
L'impression d'être à l'Albin, au marché de la truffe,
oui,
allez, soyons clairs.
J'y étais il y a 3 semaines pour un projet que j'ai avec une photographe qui est assez connue à Toulouse, qui s'appelle Émilie Gentil.
Alors, je vous invite, parce que moi, je vais vous faire une émission thématique
D'accord.
sur la truffe avec
des
trufficulteurs de l'Albin, dont vous viendrez nous apporter D'accord. à la fois votre expertise et aussi votre poésie.
Très bien. Et oui, donc cette, je suis heureuse que vous l'ayez, que vous ayez vécu cette lecture comme ça, parce que c'est comme ça aussi que je l'ai conçue en l'écrivant. En fait, c'est un jeu d'enfant. Ce livre, c'est vraiment un jeu d'enfant avec une écriture d'adulte.
Et, oui, très, très, très adulte quand même,
oui,
très
oui,
mûr.
Oui.
Hein.
Et en fait, là, ce que j'ai écrit sur tous ces objets du milieu, c'est un jeu que je pratiquais avec l'un de mes camarades à l'école maternelle. Donc ça remonte à très très longtemps.
Mais non, mais...
Ou à chaque... non,
je vous parle pas de la mienne, voilà. Alors.
Hein. Donc, et en fait, à chaque récréation... On sélectionnait des plantes, des bouts de cailloux, un tas de choses. Et alors, il m'écoutait religieusement. Il s'appelait Benjamin.
Et, il était fasciné par la oui. jeune femme en puissance que
voilà,
vous aviez de venir. Voilà, vous l'aviez.
On était tout le temps, tous les deux, depuis le petit déjeuner. Alors là, le matin, on partait à l'école tous les deux. On se tenait la main. Je commençais à lui raconter des histoires.
Mais c'est mignon,
et
tout
après,
ça.
Voilà, et après, à chaque récréation, en fait... on sélectionnait donc un petit caillou, un bout d'arbre, de la terre, et je lui racontais l'histoire qu'il y avait dans ce petit objet.
Et il s'endormait. Non. Quand même
et non. non. Donc il attendait la suite. Donc c'était ça a été mon premier public. Et en fait, c'est la même chose ce livre. Finalement, Michel Sarran, c'est mon deuxième Benjamin d'adulte.
oui,
là, vous... et là, cette analyse à la toute petite échelle, moi, j'étais fascinée par ces micro-échelles, le fait de changer d'échelle et de voir que les petites choses, elles sont immenses. Et par cette idée, justement, que la matière du monde est transformée et devient la matière de notre corps. Enfin, c'est quelque chose quand même de fabuleux, de se dire qu'on transforme quelque chose qui vient de la terre par la cuisine... qu'on l'avale dans notre bouche, qu'on la transforme, et c'est ce qui fait qu'on a des doigts, des jambes, des cellules qui vivent.
Alors vous avez le mouton, le poisson aussi,
voilà.
Et
oui.
tout ça, oui.
Mais et c'est une réflexion sur cette puissance et cette immensité des choses, en fait. Voilà, et j'avais envie de faire de la truffe, de faire du chocolat, de faire du cacaoyé, de faire des épices, des personnages, en fait, d'inverser le point de vue.
Alors, on a parlé de vous, ce qui est normal, vous êtes là, et on a parlé de Michel Sarran. La troisième, c'est la photographe
oui.
qui s'appelle...
Anne-Emmanuelle Thion.
Voilà, qui a illustré, parce qu'il y a beaucoup de photos, pas des photos forcément de plats, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais il y a des photos tout autres. Il y a des photos de plats, et après, on voit là, par exemple, des photos de mains qui sont manifestement celles d'un agriculteur. Il y a des photos de foin, il y a des photos de paysages, ou des photos très artistiques aussi. Pourquoi ces choix?
Alors Anne-Emmanuelle Thion nous a rejoint une fois les textes écrits et la trame du livre conçue. Et on a choisi justement de travailler avec elle du fait de son regard paysager. Elle réalise beaucoup de reportages photos.
Très naturaliste.
Voilà, c'est ça, enfin. Et justement, on ne voulait pas un regard qui soit purement culinaire, vu que le sujet du livre, ce sont les ramifications.
Mais vous n'avez pas, vous non plus, un regard très culinaire.
Non.
C'est tout à fait autre chose. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Ce que je dis, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs façons d'aborder ce livre aussi.
Je trouve que la cuisine, c'est une métaphore aussi de l'écriture. C'est-à-dire qu'on joue avec des saveurs, on joue sur des émotions. C'est un savant mélange entre une recette, des contraintes, des règles et une improvisation. C'est une histoire à raconter aussi. Et c'est, en fait, ce livre, c'est un petit peu le théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur le processus de l'écriture même et sur ce qu'est un sujet sérieux ou pas sérieux. Puisqu'on a tendance à croire que la cuisine n'est pas forcément un sujet très... enfin, du moins un petit peu plus frivole et ne pourrait pas être sujet à littérature. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de partir de cette petite échelle d'un objet éphémère et de raconter une histoire à partir de ça.
Je parlais d'un ovni tout à l'heure, parce qu'on le comprend, c'est quand même un livre très atypique et un peu inclassable. Il est au confluent de plusieurs possibilités de livres. Qui c'est qui a fait le choix après de la forme, de la mise en page, de la texture aussi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il fait 2,4 mais en kilos. Mais c'est pas rien. Il est cousu d'abord, ce qui est rarissime aujourd'hui sur les livres. Il est fait, tout est imprimé sur des pages très très épaisses, donc à la limite du carton. Oui. Et tout en rouge brique, alors très, très toulousain finalement, comme couleur. Qui c'est qui a fait ce choix éditorial?
Le directeur artistique qui s'appelle Georges Riu.
Donc, il était le directeur artistique parce que c'est publié, on l'a dit tout
c'est
à l'heure.
C'est publié aux éditions Glénat.
Avec Glénat, qu'on a plus souvent l'habitude de voir sur des BD.
Ah, ils ont réalisé beaucoup de beaux livres de chefs, quand même. Ils nous ont accompagnés de façon remarquable sur ce projet. Quand je dis remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment considéré la singularité de notre projet. Ils n'ont pas essayé de le changer, de changer les textes, de changer la structure, de changer la philosophie. Et en partant justement de ce contenu singulier,
il nous a accompagnés et amélioré de ses conseils. Donc c'est un bon éditeur, on va dire.
Voilà, ils ont réalisé un vrai travail d'éditeur.
Ce qui n'est pas toujours le cas chez les éditeurs aujourd'hui. Elle me couperait la parole.
Je vous coupe la parole parce que le temps que je vous ai offert, gracieusement, est terminé.
Voilà, censuré sur sa propre antenne. Enfin,
voilà, bon. Exactement.
Je voulais juste
ça.
Savoir une dernière question. Est-ce que vous avez fait des recettes qui sont là?
Vous êtes
cuisinière un peu, non?
Oui. Ah oui. Moi, j'ai besoin de toucher la matière. J'ai besoin de faire les choses moi-même. Je cuisine tous les jours, oui. Par contre, j'ai testé les recettes. Enfin, je les ai vues faire en cuisine. J'ai passé beaucoup de temps en cuisine. J'ai tout vu dans le détail pour pouvoir en parler.
Donc, la pratique est venue au soutien de la théorie.
Voilà, c'est ça.
Parfait, merci.
Alors, merci,
Géraldine.
Merci, Jacques. Je suis désolée de vous couper la parole, mais effectivement, je vous ai donné un grand moment et votre temps est terminé.
Voilà. Votre temps est terminé, voilà. C'est dramatique quand on vous dit votre temps est terminé, il faut monter au ciel. Voilà, c'est la Camarde au micro.
J'ai été très sage, je ne suis pas intervenue, mais par rapport à tout ce que vous... merci Jacques d'avoir remarqué que j'avais été très sage.
J'ai remarqué, j'en suis encore tout esbaudi et bobby.
Par rapport à tout ce que vous avez dit, et en première partie d'émission sur votre rapport à l'extérieur, à la nature... à l'immensité, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous venez de dire sur le livre. J'ai une question tout de suite avant notre deuxième pause musicale. J'aimerais savoir quelle est la place dans votre vie des croyances, de la religion.
Ah, c'est curieux que vous me posiez cette question.
Oui, elle est un peu d'actualité. Le président de la République s'interroge beaucoup, donc c'est normal qu'on vous interroge aussi, en même temps.
Alors... J'ai reçu une éducation catholique, comme beaucoup.
Pratiquante.
Oui, pratiquante un bon moment, on va dire.
Il n'y a pas de recette d'hostie, hein, dans le
précise. Ça fait longtemps que je n'avais pas goûté.
Ça s'arrête là.
Oui, après.
C'est l'éducation que vous avez reçue.
Voilà, c'est l'éducation.
Et Géraldine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend une place dans votre vie. Vous vous interrogez
sur. Je ne suis pas très à l'aise avec la notion de religion, si ce n'est dans son sens romain, religere, c'est ce qui relie.
Oui.
Je pense que la question de la transmission et du monde commun, de ce qui dure au-delà de notre vie individuelle, est vraiment prépondérante pour moi. C'est-à-dire dans les choix que je fais de projets, de collaboration, d'écriture. C'est un critère qui est toujours avec moi.
Mais c'est plutôt une recherche de spiritualité que de religion.
Oui, voilà, voilà.
Alors, je sais que c'est depuis 2-3 minutes l'heure de notre deuxième pause musicale, mais là, c'est promis, c'est la dernière question avant la deuxième pause. Avez-vous peur du vide ?
Oh non. C'est quoi le vide pour vous ?
Physiquement. Est-ce que vous pouvez être en haut d'un immeuble et vous pencher et regarder en bas ?
Ah oui. Ah oui, je serais. Oui, oui. Et s'il n'y avait pas le sol en bas, je serais prête à me jeter, oui, pour l'expérience.
Voilà, c'est ce que je voulais comme réponse. Alors là, ça y est, je laisse enfin la place à la deuxième pause musicale. Et je vous laisse justement, Géraldine, nous faire part de ce deuxième choix.
Alors, c'est le deuxième choix est extrait d'un album qui s'appelle With Love, avec amour. Qui est l'œuvre donc d'un clarinettiste qui s'appelle Yom. Et je vous laisse écouter cette chanson et dire ce que vous en pensez. Yeah.
Géraldine.
Merci.
Alors, il nous reste très peu de temps. C'est vrai que c'est une heure qui est passée très, très vite aujourd'hui. C'est-à-dire que... C'est ça, Jacques. Ah, vous êtes très, très bavard. Voilà, vous l'avez entendu. J'aimerais qu'on évoque la Géraldine d'aujourd'hui. Donc, on a dit que vous étiez née en 1982. Vous avez donc 26 ans, c'est bien ça?
Voilà,
j'ai
c'est
mal
ça.
En disant ça. Et,
vous pouvez.
Merci, Jacques. Donc, 26 ans. Qui est Géraldine aujourd'hui? Comment est le quotidien de Géraldine, le quotidien professionnel?
Alors, le quotidien professionnel, il est pluriel aussi. Donc, il est fidèle à mon enfance.
Et fidèle à ce que vous êtes, tout
voilà,
simplement.
Oui. Je pense qu'on ne peut pas vivre à côté de soi-même.
Pas longtemps, en tout cas.
Oui, pas longtemps. Voilà, on peut tenir un petit peu, mais ça finit mal. Donc, je pense que je suis fidèle à moi-même en ayant plusieurs activités. Enfin, une activité qui me permet d'avoir plusieurs expériences d'une journée à l'autre ou au sein d'une même journée. C'est-à-dire que donc, je travaille dans la communication, relations presse et événementielles dans le domaine de la gastronomie. Et j'ai des moments à la fois de rencontres sur le terrain ou avec des clients, des moments de réflexion, de recherche, d'écriture, des moments où j'organise justement des événements, des moments à la fois solitaires et en même temps de rencontres et avec des questions à la fois très pratiques, très terre à terre, parce que quand on organise un événement ou qu'on conçoit un atelier, c'est des questions très, très pragmatiques et logistiques qu'il faut gérer. Et en même temps, quand il s'agit d'écrire sur l'émotionnel ou créer du lien avec les gens, c'est aussi des compétences qui impliquent une solitude, une réflexion et une création un petit peu plus poétique.
Vous dites l'écriture, je suppose que la lecture prend aussi une certaine place dans votre vie. Qu'est-ce que vous lisez?
Alors, ce que je lis a vraiment évolué depuis mon enfance. Quand j'étais petite, jusqu'au collège, je lisais beaucoup, alors peu de romans, beaucoup de livres en lien avec la biologie, la physique.
Oui, on est toujours dans ce rapport de
oui,
terre.
Oui,
de...
oui très, beaucoup de poésie, des essais. Peu de romans. J'ai eu une très très belle rencontre avec des écrivains comme Albert Camus, comme Céline, qui m'ont bouleversée. Et là, ce sont des livres que je relis au quotidien.
Ils n'ont pas tout à fait la même approche.
C'est pas du tout la même approche.
On est quand même,
non, voilà. on est bien d'accord. Ensuite, j'ai énormément lu, d'écrits universitaires en histoire, en géographie, mais toujours couplé à beaucoup de poésie et philosophie.
Simone Veil, non?
Oui, un petit peu. Je l'ai lu un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir en parler précisément. Ensuite, j'ai eu une grosse boulimie de lecture pendant ma thèse. Après ma thèse, là, je pense que j'ai passé un ou deux ans où tous les livres me tombaient des mains. Mais je pense que c'est assez normal quand on a poussé peut-être un peu trop loin l'écriture et la lecture à ce point-là. C'était un phénomène un petit peu de rejet, de calme intellectuel qui était bénéfique. Et là, en ce moment, par exemple, je lis le dernier livre de Paul Auster, 4-3-2-1,
oui.
Sur une question en plus qui me tracasse depuis longtemps, sur toutes ces vies possibles. Je lis aussi la correspondance d'Albert Camus et de Maria Cassares. Je lis un livre aussi sur l'esprit de solitude. J'ai oublié le nom de l'auteur philosophe. Et je relis aussi, là j'ai repris un tas de lectures poétiques, classiques, on va dire, Rimbaud, Apollinaire, Reverdy.
Oui, des classiques.
Voilà.
Vous continuez la trompette?
Ah non, pas du tout, alors j'ai
vous
arrêté.
Vous avez complètement arrêté, et
ah
ça
oui.
Ne vous manque pas, c'est important.
Ah, pas du tout,
pas
du tout, parce que je crois que j'étais pas faite pour pratiquer un instrument de musique. En fait, ce qui m'a décidée à jouer, c'était le groupe.
Oui, il y a eu de la flûte et il y a eu de la trompette après.
Et c'était parce que j'avais rencontré... j'ai toujours préféré le solfège, la composition, au fait de jouer de la musique. Et j'ai joué parce que c'était ce qui se pratiquait. Enfin, tout le monde choisissait un instrument. Et en fait, j'ai choisi la trompette parce qu'il y avait un groupe, il y avait 4-5 garçons très rigolos dans le groupe d'école de musique. Et ils jouaient de la trompette. Alors, j'ai choisi la trompette pour rigoler avec eux.
C'est pas Maurice André, voilà. C'est pas Maurice André qui vous avez.
Non, pas du tout.
Vous écoutez beaucoup de musique dans votre quotidien ?
Oui, quand même, ouais. Oui.
Classique.
Oui, quand je me lève, ça, c'est vraiment très varié. Oui. C'est fonction
de l'humeur du jour,
de mon humeur, de ce sur quoi je suis en train de travailler, de ce que je suis en train de faire. Par exemple, quand je vais marcher ou courir, j'écoute pas forcément les mêmes musiques que lorsque je range mon appartement ou quand je suis juste posée chez moi à juste me concentrer sur la musique. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit.
Voilà. Alors, malheureusement, on est déjà à la fin de l'émission. J'aurais bien d'autres questions encore à vous poser. Mais j'en ai une. Malgré votre très jeune âge, on a dit que vous aviez 26 ans, donc vous commencez juste votre vie.
Mais je pense, je n'ai pas regardé les dents, vous savez que je suis un homme de cheval, mais je pense qu'elle a plus de 26 mais ans oui, quand oui. même. Hein. Mais je vous achèterai une machine à calculer, Irène. Je vous achèterai une machine à calculer, elle n'a pas 26 ans.
Non, c'est bon.
Ça va très bien. C'était 36, ça. Ah, mais oui, mais c'est parce que du coup, je me suis rajeunie de 10
oui,
ans
oui,
aussi.
Oui, non, mais ça, Irène, évidemment. Voilà. Tellement égocentrique.
C'est 36 ans, mais c'est quand même très très jeune, malheureusement. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 26, c'est 36. C'est quand même très très jeune par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à votre rapport sur la nature, sur les éléments, avec les gens. J'aimerais savoir si vous avez peur de la mort.
Et non.
Il est trop tôt, peut-être encore, non ?
C'est pour ça que je précise, malgré son jeune âge. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez lu une phrase que je vous invite à relire. Hors antenne, vous avez lu une
phrase. Un exergue du livre.
Oui, c'est un exergue. Les organismes qui meurent, pas la vie. Ouais.
Voilà.
C'était une citation de Gilles Deleuze.
C'est ça.
Non, enfin, je trouve. Enfin, moi, je n'ai pas peur de ma propre mort, puisque si mon corps physique meurt, je ne m'en rendrai pas compte. Je ne serai pas là pour pleurer mon absence. Par contre, je peux être touchée, bouleversée par la mort, forcément par la disparition de personnes qui m'entourent. Et c'est curieux que vous me posiez cette question, parce que justement, le deuxième starter de ce livre avec Michel, ça a été des deuils réciproques qu'on a vécu, en fait. Donc lui venait de perdre sa maman et me disait qu'en mourant, justement, on lui avait dit « Mais t'inquiète pas, Michel, moi, j'ai bien vécu, j'ai eu la vie que je voulais. » Et qu'elle était partie avec beaucoup de tranquillité. Et dans ce moment-là aussi, moi, par contre, donc, j'ai perdu 3 personnes très jeunes en l'espace de 2 mois et qui avaient des chemins de vie complètement différents. L'une vraiment tournée sur l'extériorité qui, finalement, laissait beaucoup de choses dans la vie des autres et dans tout ce qu'elle avait construit. Et la vie d'une autre personne qui avait plutôt vécu de manière auto-centrée et justement qui n'était pas dans dans ce débordement de soi-même et cette transmission au-delà de sa propre vie individuelle. Donc c'est toute une réflexion. En fait, ça a été c'est le point de départ de ce livre.
Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. On est à la fin de l'émission. Je rappelle donc que Géraldine, qui a 36 ans. Voilà, ça vous va comme ça, Jacques ?
Oh, moi, ça me va. Je ne les ai plus, donc effectivement, je ne peux que déplorer. Mais
Géraldine, qui a 36 ans, était mon invitée ce jour de l'émission Ainsi va la vie. Merci beaucoup, Géraldine. Et merci à vous, Jacques.
Merci. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée, Irène. Merci, au Géraldine. Au revoir à tous.
Sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant. Ainsi va la vie comme un invité mystère.